VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 25 septembre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Plusieurs chefs d'État africains se succèdent à la tribune de l'ONU ce mercredi, dont le président guinéen Alpha Condé qui a déjà parlé. Dans le nord-est du Nigeria, les djihadistes ont exécuté un humanitaire enlevé en juillet dernier. Les députés britanniques ont repris leurs travaux après l'annulation par la Cour suprême de la suspension du Parlement. États-Unis, les démocrates lancent une enquête pour destituer Donald Trump. Le président américain a rendu publique la transcription de son appel aux dirigeants ukrainiens. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Poursuite de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, où des chefs d'État africains se prononcent aujourd'hui. Voici un extrait du discours du président guinéen Alpha Condé.
Conflits armés, terrorisme, extrémisme violent, réchauffement climatique, catastrophes naturelles, intolérance, phénomènes migratoires. Quand on voit comment on traite nos semblables, qu'ils soient migrants, minorités ethniques ou religieuses, on se demande ce qui nous est arrivé. Lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, elle gagne. Nous venons de voir le cas de la zone de libre-échange. Les deux tiers des Africains n'ont pas accès à l'électricité. Je lance ici un appel pour encourager et solliciter l'implication de plus de partenaires publics et privés du monde entier à investir dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique. Ceci permettra à notre continent d'exploiter plus efficacement ses ressources et rendre la vie plus agréable et plus attractive à nos jeunes, pour qu'ils puissent enfin considérer l'immigration comme un choix et non une contrainte inévitable. Quand l'Afrique gagne, c'est le monde qui gagne, car l'Afrique est l'avenir du monde. Je vous remercie.
C'était un extrait du discours du président guinéen Alpha Condé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Au Nigeria, un travailleur humanitaire enlevé en juillet dernier avec 5 autres personnes par les djihadistes dans le nord-est a été exécuté selon l'ONG Action contre la faim. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Le groupe armé retenant captif une salariée d'Action contre la faim, 2 chauffeurs et 3 personnels du ministère de la Santé a exécuté un otage, affirme un communiqué d'ACF, sans préciser lequel des otages a été tué. L'ONG appelle à la libération des 5 autres, rappelant qu'ils sont venus dans le nord-est pour aider les personnes vulnérables. Les otages ont été enlevés mi-juillet lors de l'attaque de leur convoi entre Maïdougouri et Damasak. Un des chauffeurs a été tué pendant l'embuscade. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest a par la suite publié une vidéo de la personne enlevée avec 5 autres prisonniers. La semaine dernière, l'armée nigériane a fermé les bureaux de l'ONG à Maïdougouri et Damaturu, accusant l'organisation humanitaire de fournir nourriture et médicaments aux terroristes. Hier, Mercy Corps, une autre ONG active dans le nord-est, a vu ses bureaux fermés par l'armée. En mars, une enquête de l'Agence contre la corruption a conduit à une saisie d'une importante somme d'argent en cash dans les locaux de Mercy Corps.
Des organisations guinéennes et internationales dont Human Rights Watch et Amnesty International dénoncent la lenteur de la justice 10 ans après le massacre dans un stade de Conakry. Le 28 septembre 2009, au moins 150 personnes ont été tuées, une centaine de femmes violées dans un stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature de Moussa Dadis Camara. Selon une enquête de l'ONU, l'instruction est clôturée depuis fin 2017, mais la date du procès n'a toujours pas été fixée. Un premier groupe de 75 demandeurs d'asile bloqués en Libye devrait arriver jeudi au Rwanda, dans le cadre d'un accord entre Kigali, l'Union africaine et le HCR. Un autre vol avec 125 personnes est prévu à la mi-octobre, selon un responsable onusien. Les autorités rwandaises se disent prêtes à accueillir dans leur centre de transit jusqu'à 30 000 Africains bloqués en Libye, mais seulement par petits groupes pour éviter d'être débordés. L'ONU estime que 42 000 réfugiés se trouvent actuellement en Libye. Une force paramilitaire soudanaise a annoncé avoir arrêté 138 Africains, dont des dizaines de Soudanais, des Tchadiens et des Éthiopiens qui tentaient de se rendre illégalement en Libye voisine. La force de soutien rapide a indiqué avoir escorté ce mercredi des journalistes dans la zone désertique de Gouz Abdulloua, à 100 km de Khartoum, où certains de ces Africains sont détenus. 6 véhicules appartenant aux passeurs libyens ont été saisis. La télévision publique tunisienne, qui participe à l'organisation d'un débat pour le second tour de la présidentielle, s'est dit prête à ce qu'il se déroule en prison, au cas où le candidat Nabil Karoui serait toujours incarcéré. Le 15 septembre, Kais Saied est arrivé en tête du premier tour avec 18,4% des voix devant M. Karoui, qui a rassemblé 15,58% des votes. Une décision était attendue ce mercredi concernant une libération du candidat, fondateur d'une chaîne de télévision sans licence et poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. La décision a finalement été repoussée au 2 octobre. Et la compagnie minière sud-africaine Sibanye-Stillwater a annoncé la suppression de près de 6000 emplois sur son site de Marikana, où 34 grévistes ont perdu la vie dans des violences en 2012. Une mesure prise en raison de la restructuration de la mine de platine pour cause de pertes financières. Plusieurs puits ayant atteint leur fin de vie, a annoncé l'entreprise. 26 500 personnes travaille sur le site en Afrique du Sud.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, la Maison-Blanche a rendu publique la transcription de l'appel téléphonique entre le président Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, ce qui relance le débat sur l'enquête parlementaire en vue de sa destitution. Claire Morin-Gibourg.
Le président Donald Trump a affirmé ne pas avoir exercé la moindre pression sur l'Ukraine après publication de la transcription d'un échange téléphonique avec son homologue ukrainien.
It's the single greatest witch hunt.
C'est probablement la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine, a-t-il ajouté. La transcription de l'appel téléphonique entre M. Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky montre que M. Trump lui a demandé d'enquêter sur la famille de Joe Biden. On parle beaucoup du fils de Biden et du fait que Biden ait arrêté l'enquête et beaucoup de gens veulent en savoir plus sur le sujet, dit-il lors de cet échange qui a eu lieu le 25 juillet 2019. Fils du candidat démocrate Joe Biden, Hunter Biden a été membre de 2014 à 2019 du comité de surveillance du groupe gazier ukrainien Burisma, un temps visé par une enquête pour corruption. Donald Trump accuse Joe Biden d'avoir réclamé en 2015 le limogeage du procureur général ukrainien pour protéger les intérêts de son fils.
Les députés britanniques ont repris leurs travaux aujourd'hui après l'arrêt de la Cour suprême qui a annulé la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement à l'approche du Brexit. Eric Manirakiza.
Contrairement à tous les mercredis à la Chambre des communes, il n'y aura pas de séance de questions au Premier ministre à midi, a expliqué le président de la Chambre basse, John Bercow. Suspendu depuis le 10 septembre, le Parlement devait le rester jusqu'au 14 octobre, à 2 semaines du Brexit, prévu le 31 octobre. Mais la décision de Boris Johnson a été jugée illégale par la plus haute juridiction britannique. Hier, M. Johnson a dit respecter la décision de la Cour suprême sans l'approuver. Cette décision des juges a déclenché de nombreux appels à sa démission dans les rangs de l'opposition. Pour Robert Craig, professeur de droit à la London School of Economics, le Premier ministre est désormais soumis à une pression bien plus grande pour le contraindre à faire certaines choses. Boris Johnson a réitéré son appel à des élections générales anticipées pour sortir son gouvernement du bourbier, mais Jeremy Corbyn, le leader du Labour, principal parti d'opposition, ne veut pas entendre parler d'élections avant que la menace du no-deal soit clairement écartée.
Les États-Unis ont imposé des sanctions contre des sociétés chinoises accusées de transporter sciemment du pétrole depuis l'Iran en violation de l'embargo américain, a annoncé le chef de la diplomatie Mike Pompeo. Lors d'un discours à New York, le secrétaire d'État américain a expliqué qu'il s'agissait d'un début de mise en œuvre de la menace de Donald Trump, qui a promis la veille à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU de durcir les sanctions. En Afghanistan, 4 personnes ont été tuées dans un attentat contre une permanence électorale du président Ashraf Ghani à Kandahar, au dernier jour de la campagne présidentielle. Parmi les victimes, un journaliste qui présentait les actualités à la radio Ewad. 4 autres personnes ont été grièvement blessées selon le gouvernorat. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
La récolte de cacao en Côte d'Ivoire pourrait atteindre entre 1,65 million et 1,7 million de tonnes pour la campagne 2019-2020. Ce chiffre reste très proche de celui de la campagne précédente qui avait totalisé 1,66 million de tonnes. Pendant cette campagne, le prix minimum garanti aux producteurs devrait atteindre 800 francs CFA par kilo contre 700 francs CFA par kilogramme. Les abonnements à la téléphonie mobile en Tanzanie ont atteint 43,67 millions d'euros au deuxième trimestre, soit une croissance de 4,7% par rapport à l'an dernier. Les utilisateurs d'Internet ont augmenté de 22,99 millions à 23,14 millions. Le nombre de personnes utilisant des transferts d'argent mobile est monté à 22,9 millions contre 20,8 millions auparavant. Vodacom au Tanzania est resté le leader du marché. La Banque centrale marocaine maintient son taux directeur inchangé à 2,25%, affirmant que les coûts d'emprunt actuels sont conformes aux perspectives d'inflation et de croissance à moyen terme. L'inflation devrait ralentir à 0,7% cette année par rapport à 1,9% l'an dernier en raison de la chute des prix des produits alimentaires. Pour finir, Total promet d'augmenter de 5 à 6% par an au lieu de 3% les dividendes versés à ses actionnaires dans les années à venir. La société gagne environ 40 milliards de dollars par an et dépense 40% en réinvestissement, 25% vont vers les salariés, 20% vers les actionnaires et 15% vers les États à travers des impôts.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le FC Renaissance réintègre la Ligue 1 congolaise.
Oui, exclu le 3 septembre de la Ligue nationale de football du Congo, le FC Renaissance est finalement épargné de sa lourde peine. La Lina Foot a décidé de revenir sur sa décision qu'elle juge trop sévère. La Ligue avait exclu FC Renaissance de la Division 1 du championnat national pour 2 saisons, suite aux incidents ayant émaillé la rencontre qui l'opposait à Sa Majesté Sanga Balende de Mbudi Mayi le 2 septembre au stade des Martyrs. La Lina Foot est revenue sur sa décision de suspension, mais les amendes et réparations des préjudices causés sont maintenues.
Trophée des champions, une nouvelle initiative de la Fédération camerounaise de football.
La FECAFOOT organise pour la toute première fois une sorte de supercoupe qu'elle nomme le Trophée des champions. Cette coupe permettra de lancer la nouvelle saison sportive 2019-2020. Et pour cette première, la rencontre va opposer le champion de la Ligue 1, l'USM de Loum, au vainqueur de la Coupe du Cameroun, le stade Renard de Mélanc. Le match est prévu pour le 13 octobre au stade Kwekong de Bafoussam.
Un mort dans des affrontements entre supporters au Maroc.
Un groupe de supporters du Wydad Casablanca a intercepté un véhicule transportant des fans de l'AS FAR Rabat, lui jetant des pierres avant que la situation ne dégénère en affrontement. Selon un communiqué officiel, ces affrontements sont survenus près de Casablanca après un match de la Coupe du Trône marqué par une défaite du Wydad 1-3. Une personne a été tuée et 5 autres blessées. 6 personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans ces violences. Les affrontements entre supporters de football sont récurrents au Maroc où 2 fans ont trouvé la mort en mars 2016.
Et Sébastien Coé a été réélu à la tête de l'I2AF.
Le Britannique, seul candidat, a été réélu sans surprise à la tête de la Fédération internationale d'athlétisme lors du congrès de l'IDESAF à Doha au Qatar. Donc, ancienne légende de l'athlétisme britannique devenu homme politique, Sébastien Coé est président de l'IDESAF depuis 2015 et a été réélu pour 4 ans à 2 jours de l'ouverture des mondiaux. Lors de son premier mandat, Coé a notamment permis de créer l'unité d'intégrité de l'athlétisme chargée de juger les questions d'éthique et de dopage et a dû gérer l'épineux dossier de la Russie dont la fédération est suspendue depuis novembre 2015 et la révélation d'un vaste scandale de dopage institutionnel.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez bien Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants du Congrès va ouvrir une enquête pour mise en accusation à l'encontre du président Donald Trump. Il s'agit de la première étape d'une procédure pour destituer le chef de l'exécutif américain. L'opposition démocrate accuse M. Trump d'avoir abusé de son pouvoir pour solliciter l'aide de l'Ukraine afin de discréditer Joe Biden, qui brigue l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. John Lindon a joint ici à Washington Brett Bruen, président de Global Situation Room, pour une analyse.
Il faut savoir qu'ici aux États-Unis, nous avons la Chambre des représentants qui pourrait commencer le processus et il est probable qu'ils vont voter en faveur d'envoyer le processus au Sénat. Mais c'est au Sénat où il faut prendre la décision si ou non on va prendre cette action d'enlever le président de sa position.
Et qu'est-ce qu'on reproche à Trump?
C'est sa conversation avec le nouveau président de l'Ukraine où il a demandé, et en fait je viens juste lire le document, la conversation qu'il a eue avec le président de l'Ukraine, où il a demandé plusieurs fois que ce président ukrainien fait une investigation sur le fils Joe Biden, l'ex-vice-président des États-Unis et un candidat pour la présidence maintenant, que le président de l'Ukraine fait une investigation sur les actions de Joe Biden, de son fils, et il l'a répété plusieurs fois. Et pour le Congrès, pour les démocrates au Congrès, cette action représente une violation de la loi, une violation de la confiance qu'on fait au président pour garder la sécurité des États-Unis au lieu de faire sa propre politique agenda dans la Maison-Blanche.
Alors, vous parlez de Joe Biden. Est-ce que l'ouverture de cette enquête ne va pas plutôt pénaliser l'ancien vice-président américain et partant le Parti démocrate?
Bien sûr, il y a un risque que l'évidence qui va sortir les différentes allégations, les différentes histoires de ses actions en Ukraine, ailleurs, pourraient être pas vraiment positives pour Biden. Mais en même temps, je crois que l'emphasis va être plutôt dans cette conversation où le président Trump a fait la pression sur un nouveau président en Ukraine.
Si au finish, l'enquête détermine effectivement que Donald Trump a été fautif, une destitution est-elle vraiment possible, sachant que ce sont les Républicains qui contrôlent le Sénat?
Bien sûr, cette vote pourrait représenter une difficulté pour expliquer leur appui et surtout les raisons pour lesquelles ils l'ont mis des choses partisanes avant l'intérêt et la sécurité du pays.
C'était l'ancien diplomate Brett Bruen, président du cabinet de conseil Global Situation Room, ici à Washington.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En marge de la 74e Assemblée générale de l'ONU a lieu une rencontre dénommée le Mali et le Sahel. Elle est organisée par le secrétaire général Antonio Guterres et c'est sur les enjeux liés à cette région. Arzuma Compaoré a joint Mabeng Ngom, directeur régional Afrique de l'Ouest et centrale du Fonds des Nations Unies pour la Population, qui a initié cette rencontre à New York.
Comme vous le savez certainement, depuis 2018, nous avons mis en place un programme intégré, une stratégie intégrée du système des Nations Unies, donc pour accompagner les efforts actuels au niveau des pays du Sahel. Et cette stratégie fait venir autour de l'organisation des Nations Unies, des institutions régionales, sous-régionales.
Et c'est quoi les enjeux stratégiques de cette zone du Sahel?
L'enjeu est très simple. C'est une zone actuellement en crise où des conflits violents sont en cours vers le Mali, le Burkina, donc dans le bassin du lac Tchad. C'est une menace qui dépasse, j'allais dire un peu, le Sahel. C'est une menace qui dépasse le continent. C'est une menace globale. C'est un enjeu géopolitique important sur lequel le secrétaire général des Nations Unies va discuter cet après-midi avec les chefs d'État et de gouvernement.
Alors, dans cet ensemble, le Mali semble être quand même une pièce importante. Dites-nous pourquoi.
Non, absolument. Le Mali, c'est pratiquement l'épicentre un peu de ce phénomène. Aujourd'hui, nous avons eu la chance, il y a de cela 2-3 mois, avec l'équipe des directeurs régionaux, de nous rendre au Mali pendant 3 jours. Et d'ailleurs, nous avons eu l'occasion également de nous rendre à Mopti, donc accompagné du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Michel Sidibé. Nous nous sommes rendus compte un peu de la gravité de la situation, mais cette visite nous a permis également de voir qu'il y a un déficit extraordinaire en matière de ressources. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons besoin de 2,5 milliards de dollars pour faire face aux besoins humanitaires de cette région pour l'année 2019. Et au moment où je parle, je pense que nous avons environ 35% de ces ressources disponibles pour, en tout cas, sauver 15,3 millions de personnes en situation humanitaire.
Alors finalement, la situation dans le Sahel, est-ce que c'est surtout la crise humanitaire ou c'est la crise sécuritaire?
Il y a une crise humanitaire, il y a une crise sécuritaire, mais également il y a une crise de développement. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est vraiment un soutien des propositions que le secrétaire général des Nations Unies mettra sur la table en étroite collaboration avec les pays du Sahel.
C'était Mabeng Ngom, directeur régional Afrique de l'Ouest et Centrale du Fonds des Nations Unies pour la Population.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cameroun, plus de 300 scientifiques sont réunis à Yaoundé pour renforcer les solutions africaines dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Parmi elles, le paludisme qui continue de faire des ravages au sein des populations. Voici un reportage de notre correspondant Emmanuel Julntap à Yaoundé.
Sous une salve d'applaudissements, le professeur camerounais Rémi Mfundi reçoit une distinction pour ses recherches sur les maladies à transmission vectorielle. 40 ans de travaux dans les universités du Cameroun, une riche expérience qui contraste encore avec la situation des maladies à transmission vectorielle dans son pays.
Le Cameroun offre un environnement idéal pour la prolifération des vecteurs.
Professeur Rémi Mfundi.
Ces insectes ont un cycle de reproduction qui passe par l'eau. Vous avez essentiellement les mares temporaires ou bien des réservoirs qui peuvent être artificiels. Quelquefois, c'est des bassines que l'on garde dans les maisons pour la conservation de l'eau. Et c'est là où les moustiques viennent pondre. Et là-dedans, nous avons donc deux genres. Nous avons le genre Anopheles, qui transmet le paludisme. Ensuite, nous avons un autre genre, le Aedes albopictus, qui est une espèce qui transmet le chikungunya, par exemple.
Le Cameroun figure parmi les 11 pays dans le monde qui sont les plus affectés par le paludisme, une maladie qui, dans le pays, reste la principale cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. Professeur Rose Ngana Fomban-Leke est également l'une des figures de proue de la lutte contre les maladies à transmission vectorielle au Cameroun.
Les habitants du Cameroun doivent utiliser tous les outils que nous avons, plus précisément les moustiquaires qui sont distribués. Les gens doivent les utiliser et même s'ils attrapent le paludisme, qu'ils se soignent bien. Il y a des médicaments pour traiter le paludisme, il y a des moyens de le prévenir.
Surveiller et éliminer les maladies à transmission vectorielle au Cameroun et en Afrique passe d'abord par la résolution du problème de résistance des moustiques aux insecticides. Ba Robert David est du Burkina Faso. Il représente la société Syngenta qui lutte contre les maladies vectorielles.
61% de réduction de taux de paludisme au Ghana grâce à notre produit, grâce à la pulvérisation intradomiciliaire. Vous avez 64% de cas de réduction de cas de paludisme au Zimbabwe. Vous avez 45% de cas de paludisme réduit au Mozambique. On a beaucoup d'exemples comme ça.
Mais de telles campagnes sont onéreuses et ne peuvent être menées que par des organismes comme le Fonds mondial ou l'Organisation mondiale de la santé. C'est pourquoi l'Association panafricaine de lutte contre les moustiques, créée en 2009, encourage des approches communes entre scientifiques africains et institutions partenaires pour faire face aux maladies transmises par les moustiques sur tout le continent. Yaoundé, Emmanuel Junoutap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Une étude réalisée par une coalition d'universités d'organisations environnementales indique que les pratiques agricoles actuelles contribuent aux pénuries alimentaires. Une des solutions proposées est de manger les insectes. D'ailleurs, au Kenya, certains agriculteurs élèvent des grillons pour les vendre aux entreprises d'alimentation. Voici un reportage de Ruth Elmendorp à Kisumu. Le récit est de Lionel Gaïma.
Nous sommes dans une ferme à Kisumu au Kenya. Des miches de pain fraîchement cuites sont étalées sur une table. Rien d'inhabituel, sauf que ce pain a été fait avec de la farine de grillon. Charles Odira, 54 ans, est agriculteur. Il élève ces insectes réputés pour leur grasouille. Il a eu l'idée de les élever après avoir visité une foire agricole en Thaïlande.
Quand je suis allé là-bas et j'ai vu comment ils élevaient les grillons, comment cela aidait les pauvres et les malnutris, combien d'argent cela rapportait. À mon retour, je suis devenu éleveur de grillons.
Il a commencé avec 50 grillons qu'il a attrapés dans la nature. Quelques années plus tard, il est propriétaire d'une colonie de 300 000 insectes dans des enclos. Ils sont nourris d'aliments pour poulets et des restes de plantes. Selon des chercheurs de l'ICIP, le Centre international de physiologie et d'écologie des insectes à Nairobi, les grillons sont bons pour la consommation humaine. Tanga Christantus est l'un des scientifiques.
Les grillons sont très riches en protéines. Ils varient de 60 à 75%, donc supérieurs à la viande qui se situe entre 25 et 30%. Les protéines d'insectes sont très bonnes pour les mères qui allaitent et pour les enfants de moins de 5 ans.
Odira a monté un réseau des 100 éleveurs de grillons, ce qui comporte un risque. Une infection bactérienne a presque décimé les colonies de toute la région et les agriculteurs ont dû repartir à zéro. Avec le soutien de l'ICIP, les avantages de grillons ont incité la Food and Land Usage Coalition à proposer l'élevage d'insectes pour lutter contre les pénuries alimentaires. Le chercheur Subramanian Sevan de l'ICIP.
Le système alimentaire traditionnel fondé sur la récolte doit être amélioré grâce aux nouvelles techniques d'élevage en masse de ces insectes.
Les grillons de la ferme d'Odira sont consommés ou se retrouvent dans le pain et les biscuits. Fred Diambo est un client fidèle.
J'aime ce pain parce qu'il donne plus d'énergie que le pain normal. Aussi, il augmente ma virilité.
Odiambo apprécie son petit déjeuner au grillon. Les experts affirment que les grillons pourraient un jour nourrir des milliers et aider à prévenir des conflits dans les régions du monde où la population augmente vite et où les ressources alimentaires sont rares.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Michel Joseph. À la console, Michael Dubinsky. À la présentation, Nathalie Barge. Restez à l'écoute. Dans un instant, un rappel des grands titres de l'actualité sur VOA Afrique. À tout à l'heure.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.